Et bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'espérance dans la Bible. Nous accueillons une nouvelle fois aujourd'hui Philippe Délay, bonjour.
Bonjour Gaël.
Nous poursuivons notre série et cette découverte des prophéties qui, données dans l'Ancien Testament, se sont réalisées au 19e siècle pour l'une d'entre elles en tout cas. Et justement, nous détaillons ces événements survenus à cette période suite à ce qui semble être une mauvaise compréhension d'une prophétie. Le retour de Jésus avait été annoncé le 22 octobre 1844, mais puisque nous sommes là aujourd'hui, c'est bien qu'il n'est pas revenu. À cette époque, une amère déception a alors saisi tous les croyants qui, sur toute la surface de la terre, attendaient ce second avènement. La conséquence a été l'abandon de la foi pour beaucoup d'entre eux. Pourtant, la Bible n'a pas failli et l'histoire, par la réalisation des prophéties bibliques, nous a démontré sa fiabilité. Donc, Philippe, pouvons-nous dire qu'il s'agit bien d'une mauvaise compréhension? Et dans ce cas-là, où est-ce que cette mauvaise compréhension s'est-elle faite?
Eh bien Gaël, ceux qui étudiaient avec sérieux la parole de Dieu savaient que celle-ci ne pouvait faillir. Et comme vous l'avez souligné, les prophéties bibliques ont été confirmées par l'histoire, avec un H majuscule, de notre humanité. La date 457 avant Jésus-Christ était le point de départ de la prophétie des 70 semaines que nous avions évoquées. Et celle-ci s'est réalisée à la perfection. Et cette date est le même point de départ pour les 2300 soirées matins. Donc, obligatoirement, il devait y avoir une erreur dans l'incompréhension et non dans l'aboutissement de la prophétie. Mais où était cette erreur? Alors, à votre avis, quel a été le comportement des étudiants de la parole?
Je dirais de rechercher dans la Bible un éventuel détail qui leur aurait échappé.
Eh oui. Un petit groupe d'étudiants ne s'est pas laissé décourager par ces événements. Tout comme ils l'avaient fait lors de la découverte des prophéties, ils se sont mis à genoux et ils adressèrent à Dieu de ferventes prières pour qu'il puisse les éclairer. Dieu nous a donné des promesses. Prenons celle du prophète Jérémie dans son chapitre 33, verset 3. Je vous lis. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et rappelez-vous aussi celle de Daniel dans sa prière pour connaître le songe de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Au chapitre 2, verset 23, il dit « Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé les secrets du roi. » Ces étudiants se sont appuyés sur les promesses de Dieu. Et le prophète Amos, chapitre 3, verset 7, conforte cette promesse. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Dieu ne cache rien. Dieu désire un partenariat avec ses enfants. Il se révèle aux gens sincères qui s'humilient dans la prière et qui sont à la recherche de la compréhension de sa parole. 2300 soirées matins, puis le sanctuaire sera purifié, nous dit le chapitre 8, verset 14 du livre de Daniel. Donc, ce petit groupe reprend ses études et ses études amènent à la conclusion que rien dans les Écritures ne soutenait que la terre serait le sanctuaire. Une idée qui s'était établie dans leur esprit sans qu'elle ait été comparée aux Écritures. Et cela a eu pour conséquence le désappointement. Mais Dieu a répondu à leur prière. Dieu a guidé ses étudiants vers l'Épître aux Hébreux, chapitre 4 du Nouveau Testament. Celui-ci consacré au sanctuaire, ainsi que le chapitre 14 du livre de l'Exode et le chapitre 27 de celui du Lévitique dans l'Ancien Testament. De ce fait, ils ont redécouvert des textes précis concernant le sanctuaire, sa nature, ses services, ses rites. Et ils ont découvert un enseignement incroyable concernant le ministère de Jésus sur la terre et dans le ciel. En réalité, c'était une vraie mine d'or. Et si Dieu donne autant d'informations, c'est que forcément, cela doit être important.
En fait, en termes de prophétie, nous constatons à nouveau l'importance de chaque mot.
Eh oui! Je vous l'ai déjà dit lors de précédentes émissions. L'étude des prophéties est un vrai travail d'investigation et nous ne pouvons vraiment rien laisser au hasard. Mais nous avons un atout extraordinaire, le Saint-Esprit, celui qui a inspiré les prophètes. Si nous demandons sa présence, il nous éclaire sur la compréhension des textes difficiles.
Si je saisis bien le sens de vos propos, le sanctuaire de l'Ancien Testament serait donc la clé de la compréhension de cette prophétie. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui a été mal compris en 1844?
Alors, je ne souhaite pas juger le travail de ces étudiants, merveilleux pour nous aujourd'hui, 150 ans plus tard. Et en opposition, le malheur de tous ces étudiants de la prophétie qui ont dû affronter ce gros désappointement. Et puis, je vous le rappelle, si nous avions été à leur place, nous aurions fait les mêmes erreurs. À ce stade de notre émission, nous sommes obligés de présenter le sanctuaire terrestre avec tout le rituel qui s'y rattache et le sanctuaire céleste qui est son modèle. Sinon, nous ne pourrions pas saisir ce qui s'est passé en 1844. Et de plus, le sanctuaire nous permet de comprendre ce que Jésus ressuscité, donc vivant, qui est près de son Père, fait aujourd'hui pour nous dans le ciel. Et encore une fois, Dieu ne nous a pas laissés ignorants même sur ce sujet.
Donc nous allons aborder le sujet de deux sanctuaires, un sur la terre, l'autre dans le ciel, et c'est ce qui nous donnera l'explication de ce désappointement ?
Oui, mais alors ne croyez surtout pas que ce soit une excuse pour tenter de couvrir un raté, si je peux me permettre. Dans la Bible, tout ce que nous devons savoir pour notre bien est écrit d'avance parce que Dieu nous guide de cette façon. Alors, qu'est-ce que ces sanctuaires ? Et à quoi servaient-ils ? Et tout d'abord, il ne s'agit en aucun cas d'une invention humaine. Remontons, si vous le voulez bien, un peu plus de 3000 ans en arrière et écoutons ce que le Dieu dit à Moïse dans le livre de l'Exode au chapitre 25, à partir du verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu dit à Moïse qu'il veut habiter parmi les hommes. Il dit à Moïse « Fabrique une tente et je camperai avec vous, je serai présent parmi vous. » Ça, c'est extraordinaire.
Vous venez de nous dire que ce n'est pas une invention humaine. Pourtant, il demande à Moïse de faire la tente.
Je vous fais un bref rappel de la situation. Dieu dit à Moïse d'aller en Égypte pour libérer son peuple, qui durant plus de 400 ans est devenu esclave des Égyptiens. Et vous connaissez ce récit cité dans les premiers chapitres du livre de l'Exode concernant la sortie d'Égypte après toute une série de fléaux qui ont fait plier le Pharaon et qui ont permis cette sortie. Certainement que vous connaissez également la traversée de la mer Rouge, avec la disparition totale de l'armée du Pharaon qui les avait envoyés à leur poursuite. Vous connaissez aussi certainement de la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée le jour, de la manne tombée du ciel qui servait de nourriture à tout le peuple. Les Hébreux se trouvent dans le désert du Sinaï et Dieu veut s'occuper d'eux. D'ailleurs, il leur donne la manne, cette nourriture du ciel. Il leur donne l'eau du rocher. Mais il y a un gros problème à traiter, celui de l'idolâtrie et surtout celui du péché. En effet, durant plus de 400 ans, les Hébreux ont été confrontés aux dieux égyptiens. Et ça, ça laisse des traces. Dieu leur a prouvé qu'il est vivant. Il a déjà démontré sa puissance, une puissance qui surpasse celle de toutes les idoles en pierre ou autres, comme je vous l'ai cité tout de suite. Et maintenant, ce Dieu vivant veut habiter, le mot hébreu est même tabernaclé, avec eux. Alors Dieu donne à Moïse un plan extrêmement détaillé de ce tabernacle ou de ce sanctuaire.
Vous voulez dire que c'est Dieu lui-même qui donne les plans de ce sanctuaire ?
Et plus que cela encore, il donne non seulement son orientation et les cotations extrêmement précises du site, mais de quels matériaux celui-ci sera construit ? De bois, d'or, d'argent, de bronze ? Les types de tissus et les broderies, les couleurs et tous les détails de chaque élément qui le compose ? Et vous retrouvez toutes ces précisions dans le livre de l'Exode à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40. Mais écoutez ces textes du Nouveau Testament cités du livre aux Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 5. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ce texte atteste le verset 9 du chapitre 25 du livre de l'Exode où Dieu dit à Moïse « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. »
Donc, pour résumer, Philippe, nous avons établi que la date de la prophétie était juste, mais la raison de la mauvaise compréhension de la prophétie est due à la méconnaissance du sanctuaire. Les Écritures nous orientent sur cette tente, ces sanctuaires, l'un terrestre, l'autre céleste. Alors, Philippe, si vous le voulez bien, lors de notre prochaine émission, nous pourrions découvrir ce qui se passe dans ces sanctuaires ?
Oui, avec plaisir, mais en attendant, je vous invite à garder à l'esprit qu'aujourd'hui encore, Dieu veut habiter parmi les hommes.
Eh bien, merci Philippe, et à très bientôt.
À très bientôt, merci Gaël, au revoir.